Max Doré, Maxime Doré. Salut tout le monde. Salut, ça fait deux jours que j'ai pas fait de La Terre est plate. Ça arrive, j'ai des choses à faire. Je suis occupé. J'aimerais ça faire uniquement des podcasts, puis ça va venir éventuellement. Pour l'instant, je peux pas juste faire ça. J'ai juste autre chose à faire. Donc, des fois, je rate une journée, mais enfin. Je me rattrape parce qu'il y en a d'autres où j'en fais deux, trois avec différents sujets dans les différentes séries que je fais. Donc, tu sais, non. Aujourd'hui, on est le 1er mars, parce que février, c'est tout le temps le plus petit mois. Tout dépendant, si t'aimes ça les petits mois, ben t'es content. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a une opinion sur la grosseur des mois? Savoir, j'aime les petits mois, les gros mois. Je suis certain que sur Terre, on peut trouver quelqu'un qui a une opinion sur les gros et les petits mois. Anyway, on est le 1er mars, la journée du chèque, le monde. André Arthur avait une chanson pour ça, ceux qui viennent de la ville de Québec. André Arthur avait la chanson du chèque de... Je pense que c'était... comment il s'appelle, lui, le show comme une botte, là? Je commence à perdre la mémoire. Moi, Pauline la Boomer, on commence à perdre la mémoire. C'est assez épeurant, là. Pauline la Boomer, qui est ma mère, qui est beaucoup plus vieille que moi, puis coudonc, moi, j'en perds en même temps qu'elle. Plume la Traverse. Plume la Traverse, qui avait une chanson sur la journée du chèque absolument savoureuse. Donc, bon line-up, tout le monde à la banque. Remarque, les line-up à la banque, ça n'existe plus, ça. Le monde ne font plus ça, des line-up à la banque. Je pense qu'on peut faire ça autrement. T'sais, tout le monde est pas mal l'Internet aujourd'hui. Tout le monde va pas mal sur les réseaux pour faire ça, là. Ça fait longtemps, ben, je dis ça, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la banque faire un line-up. Je ne sais même plus. Je sais même plus s'il y a du line-up à la banque. Anyway, fait que c'est une grosse journée de caisse de bière, de cigarettes, de taxi. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez, là, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, il n'y a pas de discrimination, rien. Là, c'est comme ça, ça reste là, ça finit là. Il y a des belles affaires, il y a des tonnes de choses qui sont passées. C'est la planète qui est plate. Puis en passant, juste planète plate. J'ai vu un documentaire sur... c'est pas sur Netflix, c'est sur Amazon. Amazon, qui a le service Prime, en passant. C'est un peu louche, le service Prime. c'est comme la poubelle de tout ce qui existe là, pour l'instant. J'espère qu'ils vont faire le ménage là-dedans, parce que c'est... Tu sais, t'as Netflix qui est très, très épuré. Tu sais, Netflix, à la rigueur, il n'y a pas beaucoup de stock tellement que c'est épuré. Il te suggère quelques affaires, principalement à gauche puis à droite. Toujours un peu la crème de la crème. Ils sont très sélectifs, je pense. Ils ont l'air très sélectifs. Alors que Prime a l'air d'accepter tout ce qui freaking bouge. Mais en même temps, ça crée de quoi de popper. Ça crée de quoi de le fun, je trouve. Parce que, tu sais, c'est comme un marché aux puces, genre. Tu sais, d'un marché aux puces, le trois quarts des affaires, tu vas voir sans le pète. Mais tu vas trouver de temps en temps une perle que tu n'aurais pas trouvée ailleurs, là. Ben, c'est ça, pour l'instant, Prime. Ça sent le pet 20, à peu près 99% du temps, mais tu trouves une perle. Puis il y a un documentaire, justement, sur les flat earthers, les gens qui trouvent que la Terre est plate. Merveilleux documentaire. C'est bien. Écoutez-le, ça s'appelle Beyond the Curve. Beyond the Curve. Ça s'appelle comme ça. Super intéressant. Intéressant parce qu'à la fin, en tout cas, tu vas aller voir la finale, je ne vais pas vous le dire, mais ça pour dire, puis ça a un lien avec mon titre, mais ça m'a... Bon. Ça atteint, donc, il s'est passé des tonnes d'affaires intéressantes, vraiment, puis qui valent la peine. Mis à part les épopées de Trump, là, c'est fou. T'sais, depuis que Cohen est passé, les accusations pleuvent de partout. Il y en a qui disent que c'est un witch hunt, puis il y en a d'autres dans ce cas. Je ne rentrerai pas trop là-dedans parce que j'en ai parlé beaucoup, puis prendre une pause de ces conneries-là. J'en ai un peu là, de plus tard de Trump, mais c'est pas majeur, puis c'est surtout par rapport à son voyage de noces avec Kim Jong-un, leur deuxième voyage de noces. Donc, tu sais. Fait qu'on va y aller, on va y aller un peu comme ça. On va pas non plus se faire chier avec tout ça. Donc, 1er mars, bienvenue dans le show.
Well, first of all, I'm going to keep saying loud and clearly that I am a feminist until...
Hear me roar.
until it is met with a shrug. Why does every time I say I'm a feminist, the Twitterverse explodes and news media pick it up? It shouldn't be something that creates a reaction. It simply is saying,
je sais pas, dépendant de votre opinion de Justin Trudeau, il m'énerve. Tu sais, je veux dire, c'est, je sais pas, ça fait vraiment... C'est vraiment le premier ministre qu'on mérite, par contre. Vraiment le premier ministre qu'on mérite parce que ce premier ministre superficiel, on vote de façon superficielle aujourd'hui, au Québec, au Canada. On vote avec le faciès, le visage de l'homme ou de la femme. On vote avec les grosses lignes. On vote quand ils font pas d'erreur. Tu sais, on vote du bout des doigts, mais on a quelqu'un du bout des doigts. Tu sais, on a quelqu'un qui a la profondeur d'une assiette à soupe. Quelqu'un qui a une... Tu sais, c'est pas ça. Là. Mais, enfin, toujours est-il, vous avez vu la nouvelle, c'est l'enfer, là, ça passe partout. On demande la démission de Justin Trudeau. Pourquoi on demande la démission de Justin Trudeau? Parce qu'il aurait fait il aurait agi d'influence pour SNC-Lavalin, pour aider, pour en faveur, dans le fond, de SNC-Lavalin. Si vous connaissez pas SNC-Lavalin, c'est une des plus grosses firmes canadiennes qui est assez grosse dans le monde aussi au niveau de l'ingénierie. Donc, exemple, vous voulez faire un pont en Afrique, c'est elle qui va gérer le projet du pont. C'est pas elle qui va amener quelqu'un avec un marteau. Là. Elle va engager quelqu'un avec un marteau. C'est des génies civils. Okay? C'est du génie civil. Le génie civil, au Canada du moins, au Québec, au Canada, je sais pas dans d'autres pays, je vais pas parler à travers mon chapeau, mais c'est souvent la sorte de firme, la sorte d'entreprise qui est primée pour la fraude, pour les pots de vin, pour graisser la patte des politiciens. C'est pratiquement tout le temps ce genre d'institution-là qui est là, qui réussit ça. Pourquoi? On va revenir à Trudeau plus tard avec mon opinion de la chose. C'est parce que ces entreprises-là, premièrement, font toujours affaire, quasiment toujours, avec des gouvernements. Ils font affaire, leurs principaux clients sont des villes, des gouvernements, des municipalités, des provinces, parce que leur plus gros contrat, c'est les routes, les ponts, les viaducs, tout ce qui a rapport, c'est là où le cash est. C'est là où SNC-Lavalin, Genivar, toutes les grosses compagnies de génie conseil font leur cash. C'est dans ces contrats-là. Donc, pour obtenir un contrat, quand tu te bats, disons que tu es 4-5 firmes en même temps, puis que tu sais que le preneur de décision, c'est le ministre, tu sais, ça s'impose. Je dis pas que c'est correct. Je dis que ça s'impose. C'est évident ce qui va arriver. Il va y avoir un jeu d'influence qui va se faire. Il va y avoir une tentative d'avoir le contrat parce que l'insécurité étant que si tu fais juste une soumission, ben écoute, ils vont choisir parmi d'autres joueurs. Donc, tu veux essayer d'aller un peu plus loin, la nature étant ainsi faite. Tu veux essayer d'avoir le contrat à tout prix. Tu veux t'assurer d'avoir des meilleures chances que l'adversaire. Qu'est-ce que tu peux faire quand tout est là, quand tout ton dossier est fait, quand tu as donné tout ce que tu avais, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Tu sais, tu veux faire quoi? Ben, souvent, ils vont entrer dans une autre game qui est le lobbying. Le lobbying qui est légal. Tu peux engager un lobbyiste. À ce moment-là, ce que tu dois faire, c'est que ton lobbyiste soit enregistré au gouvernement. C'est-à-dire que ton lobbyiste, c'est écrit « Monsieur un tel est un lobbyiste pour SNC-Lavalin ». Donc, à chaque fois qu'il va au bureau du premier ministre, à chaque fois qu'il va voir un ministre, à chaque fois qu'il se présente, il signe, on sait qu'il y a un lobbyiste qui est allé voir. Donc, ça donne une idée à la population, si on veut vérifier, s'il y a des possibilités de corruption quand quelqu'un a eu un contrat. C'est ça le principe du lobbyisme. Si les lobbyistes étaient toujours aussi « open » que ça, ça serait merveilleux. Mais c'est pas de même, ça marche. Si ton lobbyiste est trop open, encore une fois, c'est un aveu communautaire ou un aveu à la société que tu es en train de... Fait qu'il faut encore que tu caches un peu tes choses. Et tout ceci étant dit, dans une autre vie, quand j'étais jeune, puis moi, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des gens impliqués, et c'est pas mon rôle de dénoncer quoi que ce soit, mais j'ai flirté énormément avec le milieu... du Parti libéral, de tout ce qui tourne autour du Parti libéral, au niveau génie conseil, particulièrement. Donc, je dis flirter, j'étais plus jeune dans ma jeunesse, donc des adultes autour de moi étaient en génie conseil, géraient des firmes de génie conseil et étaient d'allégeance, comme par hasard, libéral. C'était systématique. Je vous le dis, pour une firme de génie conseil, le Klondike, le moment où tu fais que la machine a eu toutes des sets au casino, ou que ça a ting, 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 où tu cries bingo, c'est quand les libéraux sont élus. Pour les génies conseils, c'est ça. Les grosses firmes canadiennes de génies conseils et québécoises, le Klondike, le jackpot, c'est quand les libéraux sont au pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce qu'à travers les années... Parce que les libéraux, principalement, vous avez, exemple, la gauche, comme le Parti québécois, des gens un peu plus socialistes et tout ça. Les entreprises qui gagnent le jackpot quand le Parti québécois est au pouvoir, c'était plus les syndicats. Des choses comme ça, la fonction publique. C'est ces gens-là qui criaient victoire quand il y avait, justement l'élection du Parti québécois ou d'un parti de gauche. Lorsqu'un parti comme plutôt les libéraux sont élus, à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui est style fonction publique, syndicat, se crie défaite, carrément pour une défaite. Et c'est une victoire pour les business. Ça a toujours été parce que les gens qui se présentent au Parti libéral, les députés, le représentant, la plupart des gens qui tournent autour de ça viennent du monde des affaires et sont favorables au monde des affaires. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça pour le Parti libéral. Ça va toujours être comme ça, du moins à ce que je peux en voir, pour le Parti libéral. C'est des gens qui sont à côté avec les business solides. C'est des gens qui redonnent au business, c'est des gens qui se font donner énormément par les business, qui se font financer énormément. C'est des gens de qui leurs amis sont tous en business. Ce qui fait que la corruption au niveau du Parti libéral est toujours présente au niveau de l'entrepreneuriat, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et particulièrement au niveau du génie conseil. Donc, je reviens à ce que je disais. Je gravitais autour. Je vous dis, j'ai vu, moi, personnellement, des enveloppes brunes. J'ai vu il y a des voyages qu'on a fait pour aller donner à des fonctionnaires du cash. C'était pas des farces, là. C'est pas quelque chose de drôle ou de mignon qu'on dit. Je l'ai vu dans ma jeunesse, ces choses-là, avec le Parti libéral. Il y a plein de noms qui tournent aujourd'hui. Il y a plein de noms que je vois revenir. De ministres, de gens que je vois apparaître, que je me rappelle. Je fais, oh oui, OK, oui, Noël 2000, hein, Noël 92, je t'ai vu, toi. Je me rappelle de ça. Je m'en rappelle. Donc, quand on dit que Justin Trudeau aurait agi en faveur de SNC-Lavalin, ben, yes, for sure he did. For sure he did. Voyons donc, y a-t-il quelqu'un qui fait comme, oh, non, non, non. Justin Trudeau a-tu à l'intro à son féminisme, puis ses selfies, puis ses habits indiens en voyage? Pas lui. Voyons donc, il est entouré de vieux et vieux bons, de monstres libéraux à la Jean Chrétien, à la Jean Charest. Les amis, de grands amis de tous les firmes de génie conseil au Canada. Je vous le dis, si vous imaginez ça plate, si vous voulez la démission de Jean Charest, vous êtes... Va chier, Jean Charest, tu démissionnes. Puis avec raison, pas Jean Charest, mais excusez, puis Trudeau, méchant lapsus. Puis tu dis, non, puis oui, si vous pensez ça comme ça, c'est l'idée que vous en avez, dites-vous une chose, c'est pire. OK? C'est pire que ce que vous pensez. C'est pire. Il y en a encore plus que vous pensez. Les libéraux. Quand on a les libéraux, il y a un certain avantage au niveau politique. C'est des gens qui sont stables, c'est des gens au centre, des gens qui ne vont pas trop créer de mal, pas trop créer de plus, pas trop... Par contre, vous sachez que quand on élit les libéraux, on amène aussi un paquet de firmes de génie civil au pouvoir. C'est comme ça. Debout, s'il vous plaît. Si vous ne l'étiez pas déjà, un peu de respect. Quel bel hymne national. Tu sais, oublie la folie du pays. Là, ça, c'est pas la Russie en passant. L'URSS. L'ancienne Union soviétique. Oubliez toutes les folies qu'ils ont fait puis l'espèce de sénilité du régime. Écoutez ça. Sérieux? T'as le goût de te lever et de partir à courir pour ton pays. Non, mais c'est un bel hymne national. Tout chanté par l'armée du cœur. Le cœur de l'armée rouge comme ça, c'est super. Tu sais, ceux qui parlent de... Tu sais, le monde qui tripe sur les conspiracies. Il y en a tellement aujourd'hui. Je parlais tantôt de Netflix avec leur réseau. Il y en a tellement de conspiracies puis de patentes fucking même. Puis on sait plus qu'est-ce qui est vrai. On sait plus qu'est-ce qui est faux parce que tout le monde maintenant a du talent pour faire un documentaire. T'sais. Quand on fait un documentaire, ça a l'air vrai. C'est comme, je finis un documentaire, certains extraterrestres ont envahi le Nouveau-Mexique. J'en finis un autre, certain que les pyramides ont été créées par un petit homme gris. J'en écoute un autre, certain que toutes les tueurs en série sont reliées à la NSA. C'est rien, regarde donc, ça, c'est super bien fait. c'est comme un peu mêlant. Mais là, il y en a une qui est vraie, qui est cool, qui vient de ce que j'ai vu tantôt dans les nouvelles sur CNN. Ça s'appelle Duga Radar. Quand on parle de Tchernobyl, du RSS, tu sais, ça fesse. C'est comme, si tu fais une base de, ou bien d'un film trippant ou d'une conspiracy intéressante, quand je te dis Tchernobyl, URSS, 1980, c'est là que ça se passe. C'est là que toute la Terre se faisait. C'est là qu'il y avait des loups radioactifs puis qui tentent de créer des super soldats avec, tu sais. Ça, puis tu sais, les nazis, les deux, là, quand tu parles à peu près d'un puis de l'autre, c'est un début de documentaire ou un début d'histoire pas mal qui attire l'attention de pas mal tout le monde. Donc, dans ce cas-ci, l'histoire, la nouvelle, qui en est une vraie, parle de Tchernobyl, parle aussi de radar abandonné à Tchernobyl, dans la forêt, dans une des forêts. Parce que, bon, Tchernobyl, l'accident de 86, je pense, Tchernobyl, j'y vois de mémoire, là, je ne sais pas, tu peux pas. Donc, l'accident nucléaire, ceux qui ne savent pas, les deux personnes qui ne savent pas, réacteur qui éclate, la Russie, l'URSS essaie de le cacher, fait semblant que ce n'est pas arrivé pendant longtemps. Les gens dans les rues de Tchernobyl voient arriver, même pas Tchernobyl, mais c'est les villes autour. Je pense que c'est Propiesk. Voient arriver des gens en soute, en hazmat soute, en lançant du savon partout dans les rues. Le monde est là, what the fuck? Parce que, bon, l'URSS étant ce qu'elle est, la merveilleuse URSS, on ne communique pas avec son peuple. C'est un pays communiste qui ne communique pas avec le communisme. C'est la communauté, c'est un peu bizarre, mais bon. Ils ne communiquent pas avec eux, ils n'expliquent pas ce qui se passe, ils cachent toujours tout, dans le fond. Le monde voit ça, du savon partout dans les rues, se pose des questions. Je pense que l'URSS, ça, ben, l'aurait jamais dit, je sais pas, mais il l'aurait pas dit pendant un sale bout si c'était pas des capteurs en Suède. Donc, les pays scandinaves, moi, je savais pas, j'avais pris ça dans un documentaire, quand il y a un accident nucléaire, ça fait le tour de la Terre, OK? Tu passes pas des radiations assez fortes pour que tu crèves rendu en Suède ou aux États-Unis, mais tout le monde reçoit des radiations plus élevées lorsqu'il y a un accident comme Tchernobyl. Donc, la Suède reçoit des résultats de malade, ça pique. Donc, regarde les vents, regarde d'où ça vient, voit que ça vient de l'URSS. Dis, écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé, là, parce que ça pique ici en Suède, là. Tous les pays, tranquillement, Londres aussi pique, donc tout le monde a les mêmes données. Finalement, Gorbatchev arrive et dit, t'as peu, il y aurait peut-être un accident à Tchernobyl. Il y aurait peut-être eu quelque chose. Ah, en tout cas, ça a été géré du cul. C'est vraiment l'Union soviétique à son meilleur. Mais ils ont vu, il y a comme des radars dans la forêt, dans une des forêts abandonnées. Il y a des radars, mais c'est énorme. Énorme. C'est des radars de 180 pieds de haut. C'est comme un rond. Allez voir, écrivez Duga Radar, D-U-G-A Radar. C'est impressionnant. Ça fait vraiment science-fiction. Ça fait vraiment conspiracy, là. Donc, les Russes avaient construit, l'Union soviétique avait construit ça près de Tchernobyl. C'est comme une station radar de débiles. Tu sais, tu dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Ça fait un peu Tesla, ça fait un peu glauque, c'est weird. Jusqu'à ce qu'on sait à peu près à quoi ça servait. Tu peux faire un... Comme je dis, tout peut être weird dans la vie. J'aurais fait un documentaire sur qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'ils avaient donné des théories fuckées. Mais on le sait pourquoi. On le sait, les Russes l'ont dit, ils ne l'ont pas caché, quelle était la raison du Duga Radar. Ce pas des radars qui peuvent émettre. Donc, souvent, il y a comme une grosse conspiracy theory présentement. Les Américains ont comme une technologie qui peuvent envoyer des ondes de malades. Il y a un endroit aux États-Unis où ils ont une base de radars comme ça. Mais eux émettent. C'est fait pour faire des ondes particulières qui peuvent, genre, c'est comme un arme, littéralement. Puis il y a beaucoup de conspiracy theories qui disent qu'ils l'utilisent puis qu'il y a des gens qui entendent des fréquences bizarres parce que les Américains font des tests avec ça. C'est autre chose. Donc ça, c'est les radars dont je parle aux États-Unis, ils peuvent émettre une fréquence, donc peuvent être... Ceux-là, c'était pour recevoir, c'était pas des émetteurs, c'était vraiment des radars de réception, c'était pour recevoir. Et la raison des Duga Radar, dans les années 70, que ça a été construit, c'était pour essayer de capter le lancement d'une arme nucléaire le plus rapidement possible pour pouvoir s'adapter, ce qui est très logique, là. C'était dans le temps de la guerre froide avec les Américains, donc il y avait des menaces de guerre nucléaire omniprésentes. Et donc, il avait fait ce radar-là pour être hyper précis. Un radar qui peut capter. Je ne sais pas, moi, tu me le dis, comment tu peux capter un lancement de missile à 5000 plutôt kilomètres? Je trouve ça weird, là. Même si tu as des radars dans la forêt de Tchernobyl, comment tu captes ça? Bon, mais eux, s'imagine qu'il y a une technologie, il y a une façon de faire. Peut-être qu'il y a des ondes qui sont... Il y a quelque chose qui se passe, du moins, quand tu lances un missile intercontinental qui peut être détecté par des radars de 180 pieds, OK? Je vais aller jusque-là par rapport à ça. J'ai aucune freaking idée comment ça marche. Mais c'est ça, les Duga Radar, donc, servaient à ça. Je trouvais ça intéressant parce que c'était vraiment weird. Allez voir ça. Puis comme je vous dis, c'est clair que quelqu'un va arriver et va faire une émission conspiracy theory là-dessus, là, puis qui va venir nous expliquer que c'est genre la fin des temps, tu sais.
The U.S. mainland is within the range of our nuclear strike, and the nuclear button is put on the desk in my office at all times. They should clearly understand that this is never a threat, but a reality.
Kim has called for the mass production and deployment of more nuclear warheads and missiles. But weapons experts agree that North Korea may not yet have the technology.
Vous entendez Kim Jong-un qui menace encore avec ses missiles. Il dit que le piton est sur son bureau. Tu imagines le bureau de Kim Jong-un? Vous avez un bureau dans sa grande pièce communiste. Fait que là, c'est souvent comme des énormes buildings vides, là, avec un énorme statue de lui qui doit dire salut dehors. Là. Et moi, je l'imagine dans un genre de 50 000 pieds carrés avec juste un bureau dans le fond. T'sais, tu marches. Tu marches pendant genre à vrai 45 minutes. On va essayer de le faire, l'effet spécial. J'en ai des effets spéciaux. Je suis pas un têteux, là. Parle pas de têteux, écoutez bien ça. Allô? Non, ça n'a pas marché. Donne un peu. Ah, il faut que je mette les fixes à lever. Ah, voyons donc. Allô? Allô? Okay. OK. Non, mais il faut trouver celui que... Je pense que c'est celui. Non, c'est celui-là ici. Oui. Tu sais que, imaginez ça comme ça, là. Le bureau de Kim Jong-un, je l'imagine de même. Mais je suis en train de ça. Là, le gars, il dit oui, amenez-moi là. Puis là, il faut que tu marches. Et tu marches genre pendant à peu près 15 minutes pour arriver au bureau de Kim Jong-un. Puis sur son bureau, il y a le piton rouge. Nuclear weapon. Puis là, il peut peser n'importe quand. Tu sais, le gars, il entend. Attention, il pèse sur le nuclear weapon, tu sais, juste pour dire. Mais. Fait que c'est ça, puis donc c'est ça qu'il disait qu'il y avait un piton. Mais Trump, pour l'instant, qui est dans la merde, okay? Trump qui est vraiment dans la boîte quasiment 24 sur 24 de ces temps-ci, parce qu'avec raison, écoute, c'est un menteur compulsif, c'est un crasseur, c'est un sociopathe, c'est un psychopathe, Donald Trump, ça finit là. C'est un des domaines dans lequel il y a le plus de psychopathes en passant dans la société. Les psychopathes, on dit qu'un sur 100, un être humain sur 100 serait un psychopathe dans notre société. Il y a 40 traits dans une étude pour repérer les psychopathes. Pour être officiellement un psychopathe, il en faut 26 sur 40. Il y a quelques êtres humains sur Terre qui ont 40 sur 40, mais sont vraiment peu fonctionnels. La plupart, les psychopathes connus, 1 sur 100, ont entre 26 et 30. Et le milieu dans lequel on trouve le plus de psychopathes est en affaires. Parce que les qualités d'un psychopathe, si c'en est une, parce que c'est possible malheureusement pour un psychopathe d'avoir des qualités, sont vraiment avantageuses pour lui ou elle en affaires. C'est là où le psychopathe peut le plus... ça donne beaucoup d'idées sur notre ami Donald, qui est sincèrement un psychopathe. Mais en même temps, étant fou, étant menteur, étant insupportable, tu sais, puis je dis pas ça pour être dans le mainstream et être d'accord avec tous les Québécois, là. Souvent, je suis pas d'accord avec vous autres sur bien des affaires au niveau politique. Là-dessus, j'ai étudié le dos, je l'ai écouté. Ça fait 2 ans que j'écoute les nouvelles tous les jours pendant des heures sur différents postes. J'approfondis. C'est un crosseur. C'est un menteur. Et c'est un sociopathe. C'est un être humain qui n'a rien à cirer d'autre que chose que lui-même. C'est un danger, sincèrement. Mais nonobstant ça, il faut donner à César ce qui revient à César. Lorsque Cohen hier parlait, donc j'en ai parlé un peu, mais lorsque Cohen était donc en entrevue devant le Congrès, ça fessait ce qu'il disait sur lui. Okay? Puis lui, il n'aime pas avoir des choses négatives sur lui, ça le fait virer fou. Et en même temps, donc Donald Trump avait une espèce de rencontre au Vietnam, donc avec Kim Jong-un. Donc c'était leur deuxième lune de miel, deuxième rencontre pour arrêter la nucléarisation de la Corée du Nord. Donc lui disait que c'était fait, c'était ci, c'était ça. Ce que beaucoup de monde ont pensé, et moi aussi, hier, avant hier, je le pensais profondément, c'était la crainte de pas mal tout le monde, c'est que Donald Trump fasse quelque chose d'imbécile pour signer le traité le plus rapidement possible pour changer le sujet avec Michael Cohen aux États-Unis. C'était la pensée générale. La plupart des analystes politiques se disaient « Wow, il est tellement égocentrique, il n'a tellement rien à foutre qu'il serait capable de signer un deal de merde juste pour changer le sujet ». La Corée du Nord a vu ça aller. Il y a beaucoup d'analystes, d'anciens nord-coréens qui sont maintenant analystes à travers le monde, le disent et le répètent en disant, écoutez, ce ne sont pas des imbéciles, ils écoutent les nouvelles. OK? Et ils en tirent avantage. Je vous donne un exemple, vous allez négocier, vous savez que la personne qui s'en vient vers vous négocier est en peine d'amour, ne file pas, nanana. Vous avez cette info-là. C'est triste, mais vous pouvez l'utiliser dans une négociation de business. peut vous arranger, dire que ça va pas, tabarouette, veux-tu prendre un verre? Hey, j'ai quelqu'un de présenté, c'est ce que c'est... Comprenez-vous? Vous prenez avantage, donc, de ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe dans quelqu'un de connu comme Donald Trump, vous écoutez les nouvelles. Donc, l'équipe de Kim Jong-un a vu ça venir gros comme le bras, que Trump, probablement, avait besoin à tout prix d'un deal. Il l'annonçait quasiment. Ce qui est triste, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Heart of the Deal », puis il ne suit même pas ses propres règles. Il est supposé de ne pas parler puis pas donner d'avance tes impressions. Il était à quatre pattes en disant que ça allait être le plus beau deal de l'histoire qui allait être signé. Donc, imaginez. En plus, la Corée du Nord, un petit peu avant, voit que Cohen est en train de le blaster en ligne. Donc, ils sont arrivés avec des demandes de fous. Avec raison, j'aurais fait la même chose. Ils se sont essayés. Ils sont arrivés avec des demandes de malades pour négocier. Mais c'est là où je veux donner à César ce qui revient à César. Notre psychopathe en chef a su reculer et dire « Non, regarde, j'ai beau vouloir éteindre l'histoire de Cohen back home, j'ai beau vouloir à tout prix signer un deal pour avoir l'air du king, the heart of the deal. » Non, ça n'a pas de sens. Là. Ça va nous... Je vais avoir l'air plus cave que d'autres choses avec ce deal-là. Donc, il a refusé. Ça a fini abrupt, le sommet. Ça s'est pas fini qu'une claque sur la gueule, mais ça a fini que l'autre a dit « Mais regarde, on s'entendra manifestement pas. » C'est pas allé jusqu'à échéance, donc à la fin de ce qui était prévu. King, le petit obèse dirigeant nord-américain, dans son kit, son habit de chez Moores, il est parti dans son train, parce que lui, il aime ça le train. Il est parti dans son train blindé, tourné chez eux, puis l'autre obèse, aux petites mains, il est reparti chez lui dans Air Force One. Donc ça a fini comme ça, mais quand même, il faut donner, comme je dis à César, ce qui revient à César. Trump a quand même été intelligent là-dedans, OK? Ce qui est surprenant, mais ça arrive des fois, puis c'est arrivé. Mon hymne national préféré, c'est celle-là. J'ai dit tantôt l'URSS, c'est ma deuxième, l'ancienne hymne national russe. Celui-là, c'est Aktiva. Atikva, l'hymne national d'Israël. Quelle belle! Oh! Anyway, que vous aimiez Israël ou pas, c'est pas ça le but. C'est que c'est un bel hymne national. C'est très touchant, l'hymne national d'Israël. Il y a un ami encore de Trump. Trump, ses amis... Tu sais, qui s'assemble, se ressemble. Puis là, ça, il y a deux choses. Je suis déçu là-dessus parce que ce qu'il y a un politicien dans le monde que j'aimais, c'est Bibi Netanyahu. Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël, il l'appelle Bibi. Ça, c'est... Parce qu'ils n'ont pas vu Bibi Geneviève, parce qu'il ne ferait jamais appeler de même. Mais anyway, il l'appelle Bibi. C'est Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu. J'ai toujours aimé Bibi. Très ferme, très. Tu sais, il y a une vision de la chose à l'ONU quand il faisait ses cartes avec des dessins, voir comment l'Iran s'emmenait vers l'arme nucléaire. Il est le fun, Bibi. J'aime Bibi. Et Bibi aime Trump parce que Trump a changé l'ambassade, a pris l'ambassade américaine qui était à Tel Aviv et l'a amené à Jérusalem. Ça, c'est majeur. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi c'est majeur, parce que tout le monde dispute Jérusalem. Les musulmans disent que c'est à eux une partie. Vous avez il y a plein de groupes qui se disent que c'est à eux. Et Bibi a demandé à Trump. Trump a dit oui, on déménage l'Israël. Donc, ça fait comme si Jérusalem était aux Juifs, dans le fond, parce qu'on déménage l'ambassade américaine à Israël, à Jérusalem, en voulant dire c'est l'endroit officiel. Bon, comprenez-vous? Il y a eu un gros drame par rapport à ça. Donc, Bibi aime beaucoup Donald Trump. J'aime beaucoup Bibi parce que c'est un gars direct. Pas toutes les mêmes visions que lui. Tu peux aimer quelqu'un sans avoir les mêmes visions, OK? Tu peux aimer quelqu'un sans tout prendre pour lui. Puis, dis-moi, mais j'aime Bibi. Et là c'est triste, là, parce que là, Bibi est accusé de bien des affaires. Bibi, s'il était Canadien, donc, serait dans le Parti libéral. Ça explique un peu ce qui se passe avec Bibi. Là. Beaucoup d'amis riches qui lui ont donné des pots de vin, qui lui auraient donné des pots de vin. Mais ça sent ça. Je veux dire, il est ami avec de gros milliardaires israéliens, puis il y a eu des cadeaux pour 200-300 000 $ à certains moments. Ça sent pas bon pour Bibi. Je suis déçu. Je voulais pas que Bibi soit comme ça, mais Bibi, c'est un libéral. Bibi, c'est un gars qui est à côté avec les business. Et savez-vous ce qu'il a dit, ce que je trouve vraiment drôle, puis ce qui fait vraiment ironique un peu? Il dit que c'est des fake news, donc. Il dit que c'est des fake news des journaux que de l'accusation. Hein? C'est rendu la mode, ça, des politiciens qui ont l'air cons, des psychopathes qui se font attraper la main dans la boîte à beurre, de dire, hey, c'est des fake news, ça, là. C'est la gauche qui veut, tu sais. Ils ont réalisé qu'il y avait un certain pouvoir à ça. Il y a toute une partie du peuple de droite qui voit des conspirationnistes qui voient ça aller. Là. puis qui vont embarquer dans le game. Là. Ils vont dire, oui, that's it, Bibi. C'est pas toi, Bibi, c'est des fake news, c'est les journaux qui veulent te démolir, c'est la gauche. Même affaire qui se passe en Israël qu'avec Donald Trump. Je suis déçu, je m'attendais pas à ça de Bibi. Je voulais pas qu'il rentre dans cette game-là. Moi, j'aime le monde. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Je vous le dis, je le répète souvent, les gens, on n'est pas blanc ou noir, on est gris. Tout le monde est capable du pire puis du meilleur. Mais quand vous faites le pire, okay, quand ça vous arrive dans la vie, si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive un jour, la meilleure chose qu'on peut faire quand ça se termine ou quand vous êtes pris, c'est d'admettre. C'est une belle façon de faire les choses. C'est le début de la repentance, de dire, ah, effectivement, j'ai échappé, je suis désolé, c'est dégueulasse. Là, j'ai... Même chose pour Bibi. Je me serais attendu que Bibi dise, ah non, regardez, je démissionne, effectivement. Là. Le pouvoir corrompt absolument, le pouvoir absolu corrompt absolument, puis j'ai été tenté, puis j'ai fait des erreurs, désolé, je suis Bibi, puis bon, je vais assumer les conséquences. Ben non, Bibi fait la même game que Donnie Trump en expliquant que c'est sûrement la... Oh, fuck, ça me fait chier, je voulais pas ça de Bibi. Mais on va voir ce qui va arriver de toute façon, mais regarde, ça sent vraiment pas bon pour Bibi, puis là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. J'ai pas de difficulté à croire que c'est ce qui se passe pour
The
Bibi.
Angels are down by 5, 15 seconds left. Not looking good for them. Devils are set. All they have to do here is run out the clock. Oh no, bad snap. Unbelievable. Ball's loose. Angels recover. Great coverage by the Angels.
L'annonce du Super Bowl de Victoria's Secret, je l'ai pas vu, moi. J'ai retrouvé tantôt parce que je cherchais quelque chose qui avait rapport avec Victoria's Secret. J'ai pas écouté le Super Bowl, j'ai pas écouté les annonces. Ça m'intéressait pas cette année, puis je suis pas le seul. Okay? Il y a comme un changement de... Ben, un gros changement de fonctionnement de la société là, sur ce qu'on regarde, de quelle façon on le regarde aussi. De toute façon, les annonces, ils mettent tout à peu près une semaine d'avance maintenant. Parce qu'ils savent que les gens ne regardent plus vraiment. Ils sont pas fous. Là. Fait qu'au prix qu'ils payent pour les annonces, ben, ils foutent d'avance au moins. Fait que ça en était une pour... Mais tu sais, ça, le but, c'est de parler Victoria's Secret. C'est une nouvelle que je pourrais donner dans mon show demain, dans l'univers de la tech. Parce que, tu sais, je parle souvent dans ce show-là de Disrupt. Disrupt, c'est un changement de société. C'est un changement de fonctionner dans un domaine. Comme Uber, c'est un disrupt du taxi, des choses comme ça. Il y a des façons de changer. Et Victoria's Secret t'en a mangé la marde aussi. Victoria's Secret qui était un fleuron, les femmes américaines, un peu canadiennes, c'est moins fort. Ici, on a la vie en rose, on a d'autres choses qui sont assez puissantes. Mais Victoria's Secret aux États-Unis, c'est énorme. C'est là où la femme qui veut se sentir belle, qui veut se sentir sexy, allait pour acheter ses sous-vêtements. Puis pas particulièrement cher, hein, Victoria's Secret. Tu sais, on voit, j'ai rentré une couple de fois, là, tu vois, il y a une table à l'entrée, là, c'est genre 5 pour 25, puis... Il y a des prix raisonnables. Il y a des choses plus chères sur Victoria's Secret. Il y a de la qualité. Mais c'est pas débile. Là. C'est pas Saks ou c'est Paul Renfrew. C'est pas Macy's, c'est Ketan. Mais c'est pas Nordstrom. Nordstrom, encore là aussi, c'est pas super. Mais en anyway, c'est pas le gros luxe nécessairement. Il y a un peu de luxe, mais c'est surtout cool, Victoria's Secret. Okay? C'est sexy, c'est cool. Ils mettent tellement de cash en pub. Fait que tu sais, une femme qui se met une bobette Victoria's Secret, elle est pas gênée. C'est pas comme si elle avait du Hanes ou du Walmart. Okay? Mais là, on annonce chez Victoria's Secret la fermeture d'à peu près 60 magasins aux États-Unis. Ça va pas bien. C'est pas la fin du monde chez Victoria's Secret. C'est pas si pire encore. Mais encore une fois, une autre business qui fait face à la nouvelle vie. Je vous le dis, c'est une par une. Il n'y en a pas une sacrament qui va éviter ça. Qui va pas passer au bas. Tout change. Et Victoria's Secret ferme 60 magasins parce qu'ils ont baissé de 7% au niveau des ventes. Pour un magasin comme Victoria's Secret qui est établi, qui est solide, 7%, c'est énorme. Tu n'es pas supposé fluctuer de 7%. À la rigueur, une hausse de 7% serait exceptionnelle. Ce serait surprenant aussi, mais c'est beaucoup 7% de hausse, surtout pour une business mature comme Victoria's Secret. Mais une baisse de 7%, c'est alarmant, là. C'est pas normal. C'est pas une baisse normale, c'est pas bon. Eux expliquent, encore une fois, manque d'honnêteté. Ils sont pas capables d'être honnêtes. Ils sont tannants avec ça. C'est pas les premiers qui font ça. Essayent d'expliquer une problématique dans une situation avec n'importe quoi sauf la réalité. On explique qu'il y a des gros booms, c'est pas les meilleurs fêtes pour X raisons. Non, Victoria's Secret. Non. Il y a des dizaines de startups superbes aux États-Unis présentement et dans le monde de brassières et de bobettes. Il y en a des tonnes, et c'est pas cher. Les filles trippent. C'est genre, en ligne, tu as une subscription, tu reçois genre 20 bobettes par année, ou ben tu vas en ligne, puis t'achètes, t'as tous les kits sexy, t'as pas besoin de te déplacer chez Victoria's Secret, puis si ça fait pas, ils t'envoient, tu la retournes, il n'y a aucun problème. Il y a un changement. Victoria's Secret devrait simplement acheter le plus gros joueur présentement en ligne, et continuer comme ça. Pas un Victoria's Secret en ligne, là. Les gens veulent différent. Les gens veulent vivre l'expérience nette. Acheter Victoria's Secret en ligne, c'est plus nouveau, ça. Ça l'a été il y a 10 ans d'aller en ligne acheter du Victoria's Secret, d'être trendy. Là, ce qui est trendy, c'est de faire affaire avec une petite boutique unique, une espèce de start-up qui lui dit, tu sais, Bra Inc. ou Bra Buzz, n'importe quoi. Je dis non, n'importe quoi. Puis là, tu vas là, là, puis là, il y a tous les styles, tu choisis les couleurs. Il y a moins de choix techniquement qu'un véhicule. Tu sais, c'est pas logique, là. Si tu y penses, c'est beaucoup moins intéressant, j'imagine, que Victoria's Secret. Parce que Victoria's Secret a de l'expérience en calvaire, en bobette, puis en brassière, les filles. Là. S'il y a quelqu'un qui sait comment faire des brassières, des bobettes de qualité, c'est Victoria's Secret. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir un meilleur choix, c'est encore chez Victoria's Secret. Mais la mode n'est plus là, qu'est-ce que tu veux. Les gens veulent un petit start-up comme ça, veulent sentir qu'ils font affaire avec la dernière tendance. Et la dernière tendance a été longtemps Victoria's Secret, mais la dernière tendance n'est plus Victoria's Secret. Okay? Donc, ils ferment des magasins, puis ils vont continuer à en fermer tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas diversifier. La gang, si vous êtes directeur de Victoria's Secret, que vous ne m'écoutez pas, c'est clair, mais si ça se rend à vos oreilles par magie, par une petite espèce de libellule qui vous rend ça, ça ne se rendra jamais, là, je suis pas sénile. Mais je veux dire, ce qu'il faut, c'est pas d'améliorer Victoria's Secret, c'est pas d'amener Victoria's Secret en ligne encore plus. Non. Continuez ce que vous faites là, fermez un peu de boutiques, ramenez la chose normale, ayez des boutiques dans les prime spots, continuez ce que vous faites et achetez des startups. Faites-vous pas chier avec le reste. Achetez des startups. Faites comme Google, faites comme Facebook, faites comme Microsoft. Achetez des startups. Il est là le cash. Achetez les nouvelles compagnies de bobettes et de brassières. Achetez-les toutes. C'est tout. Essayez pas de changer quoi que ce soit dans votre business. C'est un trend. Vous n'allez pas réussir. Anyway. Donc, c'est ça. C'est ce qui se passe chez Victoria's Secret. Donc, dépêchez-vous, les filles, allez acheter des bobettes. Ils vont fermer vos Victoria's Secret. Hein, toi, je vais leur suggérer cette chanson-là. Peut-être qu'on va monter de 7%. Dance. Cats. The cutest thing on earth. Cats like mouses, cats like meat. Cats like boxes, cats like sleep. Cats like lasers, cats like running. Cats like birds, cats like kitty hiding. Go, kitty go, kitty meow it on the floor. Kitty go, kitty go, kitty meow it on the floor. Cats like cuddling, cats like rats. Cats like playing, cats like hats. Cats like pianos, cats like jumping. Cats like sunshine, cats like scratching. Except of grumpy cats. My God, hein? Une chanson de chez Chat. Vraiment du monde qui tripe chat. Je sais pas si vous remarquez, le monde qui tripe chien, c'est du monde qui aime aller dehors, du monde plein air. Ils sont insupportables aussi par bout. Là. Mais c'est plus le monde qui aime chat, c'est plus une femme célibataire obèse qui cherche de l'amour. Hein? Je suis désolé, les filles, là, puis c'est comme ça. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a eu un buzz énorme. Il y a eu un buzz énorme chez Starbucks en Chine. La Chine, c'est là que ça se passe. J'ai eu mon spécial Chine. Vous allez l'écouter. Allez sur Spotify ou Apple Music ou sur mon SoundCloud. Mon spécial Chine, ça c'est épeurant. Allez écouter. Alors pourquoi la Chine est en train d'acheter la terre? Si vous ne le croyez pas, allez voir. Vous allez voir, ils ont un plan. C'est pas juste que c'est une idée, ils ont un plan. Le plan est écrit et le plan est commencé. Tout le monde peut savoir c'est quoi leur plan. C'est même pas secret. C'est ça qui est freak. Mais en Chine, Starbucks a toujours réussi ça. Okay? Il y a des business de même qui réussissent à. Comment je peux dire ça? Qui réussissent à marketer quelque chose qui n'a pas rapport. Comme je donne l'exemple, Starbucks va vendre un chandail Starbucks, ça va être la mode. Comprenez-vous? Leur brand est tellement fort que les produits parallèles sont forts. Ça, il faut le faire en sacrament. Tu sais, moi, je n'achèterais jamais un T-shirt sur Harvey's ou Burger King. Tu sais, c'est pas fort. Là. Je veux dire, s'ils n'ont pas ce market-là, même McDo, t'as l'air d'un cave. Mais Starbucks, tu peux. T'sais, les tasses, tous les accessoires, ça se vend high price, c'est super cool. Et là, encore pire en Chine, ils ont sorti. Puis je suis pas sûr s'ils ont vu ça venir. J'ai une idée, puis l'idée est bonne, c'est mignon, effectivement. Écrivez Pawn Cup Starbucks. Pawn, c'est un pied d'animal, un pawn, une patte. P-A-W-N. Pawn Cat Starbucks. Écrivez les trois. Ils ont fait un verre, un genre de tasse. Et j'ai déjà vu ça récemment. C'est une nouvelle façon de faire les choses. Tu sais, la façon d'être faite à l'intérieur où tu mets le liquide est dans une forme de quelque chose, comprenez-vous? L'extérieur reste la forme d'un verre, mais à l'intérieur, ils ont comme soufflé une forme. T'sais, j'imagine que vous comprenez. Puis ça, c'est une pâte de chat. C'est fou le mignon. C'est une petite pâte de chat. Puis là, tu mets ton café dedans. Fait que quand tu mets le café, la pâte de chat apparaît, puis c'est transparent. Écoute, ça s'est battu dans les magasins. Puis il y a des images de caméras de sécurité en ligne présentement. Starbucks. Les Chinois se pètent la gueule parce qu'ils voulaient cette patente-là. Les chats, très important pour les Chinois. Mais encore là, tu sais, le Starbucks aussi, très trendy, la petite tasse. Yeah, c'est sold out, mais mur à mur. Mais ça se bat. Les Chinois se battent pour avoir la petite tasse. Ça, ton brand est en santé quand ça arrive, OK? Quand ça se passe, là, ça va bien. Quand, au niveau de ton... Je ne dis pas au niveau financier, quoi que ce soit, mais je parle, tu as réussi ton image. Tu sais, je veux dire? L'image est puissante. Là. Quand tu réussis à faire battre des gens dans tes magasins pour un produit, tu as réussi à faire de quoi? Là. Et c'est ça. Donc, les Chinois se pètent la gueule pour avoir la petite tasse. C'est bien belle, par contre. Allez la voir, le Pond Cup Starbucks China. Écrivez ça, vous allez la voir. C'est vrai qu'elle est mignonne. Je ne me serais pas battu avec des Chinois pour ça. Là. Mais elle est mignonne. Puis en plus, il y a eu une autre affaire en ligne. Ils en ont annoncé 1000 qui allaient vendre en ligne. Puis ça s'est vendu en 27 secondes, ça dit. 27 secondes pour les 1000. Floup! Hein? That's it. C'est ça, un brand. C'est impressionnant, pareil. Là. Sérieux, quand je te dis que l'avenir est en Chine, là, c'est là que ça se passe. C'est en train de créer une business au Canada. Si vous faites un réparateur d'auto, un gars qui fait de la menuiserie, je comprends que vous restiez ici, vous fassiez ça. Si vous faites une business générale qui peut pogner dans le monde puis vous faites ça ici, vous êtes freaking louche. Faites pas ça. Faites pas ça. C'est pas bon. C'est pas la bonne chose à faire. Faut aller en Chine. Merci. C'est les nouvelles que j'avais today. Sortir une affaire de tech bientôt, en fin de semaine, cette semaine, sur Demain en tech. J'ai aussi un nouveau dont j'étais le héros qui va sortir ce soir. Donc, plein d'affaires. Allez voir Maxime sur SoundCloud ou ailleurs. C'est comme ça. Je vous aime gros comment? Je vous aime gros comme les Chinois aiment la tasse avec une patte de chat.